Taro et ses plans foireux. Il m'assure une mort imminente et au final, ça doit faire une dizaine d'heures que je suis planté là à me dessécher. J'ai tellement soif. En temps normal, il me resterait la possibilité d'un Deus Ex Machina, mais... J'ai déjà joué cette carte contre les pirates. Et je suis pas prêt de les voir débarquer non plus. Ces cons savent même pas nager. Alors voilà. C'est vraiment ça, la fin. C'est ici que je vais crever. Tiens, un papillon bleu. Et là, un autre. Si je vois des papillons, c'est que je suis sûrement en train de canner. Mais c'est toujours mieux que ces enfoirés de chatons. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis où? Il y a des étals partout. Le marché noir? Mais je connais cet endroit. Je suis devant le Devil's Kitten. Mais je me souviens de ça. C'était quand j'ai défoncé la porte de ce resto là pour aller chercher Taro. Et que je m'y suis fait cueillir comme un bleu. Je peux réitérer l'expérience. Je vais l'attendre à la maison et c'est moi qui aurai l'effet de surprise.
Tadaima!
Faut qu'on parle.
Tu bites rien au japonais, c'est ça?
Je suis pas d'humeur.
Wow! C'est un rapport avec l'enquête sur le club des chatons?
Oui. C'est le moment où tu vas me révéler tout ce que tu sais. Et ça représente bien plus que tu ne voudrais le faire croire, n'est-ce pas, Miku?
Oh putain, déjà. Cette fois, c'est plutôt que d'habitude. Bon, au moins ça me change.
Qu'est-ce que tu m'embrouilles là? Ne change pas de sujet! À vous tous, tu es leur chef.
Oui, mais ça, je te l'ai dit et je te l'ai répété plein de fois, mais à chaque fois, t'oublies, évidemment.
Nani.
Ah, tiens, ça aussi, ça change. Oui, parce que moi, je peux seulement figer le temps, mais au moins, je le fais à peu près quand je veux et je m'en souviens, moi. Parce que toi, peut-être que tu peux le rembobiner, mais tu t'en souviens jamais. Et j'en ai ras les talons.
La vache, je comprends pas un mot de ce que tu racontes.
Et en plus, à chaque fois, c'est quand je suis à deux doigts de te buter. Pile à ce moment-là, il y a un petit papillon qui passe, nanana, et paf, retour en arrière.
Ah, parce que toi aussi, tu les as vus, les papillons bleus?
Ok. Ça y est, là, j'en ai marre, c'est la boucle de trop. Allez. T'as gagné, j'appelle mon courtier.
Courtier?
Je vends toutes mes parts, je quitte ce putain de conseil d'administration de merde, de ce club de chatons de merde, et je veux plus jamais entendre parler de cette histoire de merde.
Ok, par contre j'ai l'impression d'avoir loupé un épisode là.
Attends, t'entends là? Voilà. Du coup, moi, je vais aller faire un peu de shopping, hein, refaire ma garde-robe, tout ça, ça va me détendre. Allez, salut.
Le samouraï et la soubrette. Erased.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Le samouraï et la soubrette, dédié aujourd'hui à la série Erased. Beaucoup... Non, dis-le, parce que moi, j'y arrive pas.
Beaucoup d'akegai naimachi.
Si tu veux, voilà. Donc, on va dire Erased. Alors, toi, tu peux continuer à dire beaucoup si tu veux.
Ouais, je veux bien être Captain VF. Moi aussi. Je veux bien dire Erased.
Voilà, donc l'anime Erased, voilà, donc adapté du manga de Kei Sambe du même nom, animé par le studio A1 Pictures avec Tomohiko Ito à la réalisation. Donc ça a été diffusé en 2016, que ce soit en France ou en simulcast, au Japon ou en simulcast en France, pardon. Actuellement disponible uniquement sur Wakanim en streaming en France, car Netflix l'a depuis fort longtemps retiré de son catalogue, où il figure autrefois, en tout cas, il me semble l'avoir vu sur le catalogue.
Oui, il y était avant.
Revolt.
Jean, tu nous fais un petit pitch?
Oui, volontiers. Alors, ce sera le seul micro-aspect. Alors, spoiler entre guillemets, c'est carrément le concept de la série là dont on parle. Donc, ce sont des événements qu'on voit dès l'épisode 1, dès le début, en fait.
Exact.
Donc, j'explique rapidement. On suit le personnage de Satoru qui est un mangaka en herbe en fait qui arrive pas à se lancer, à percer. Et puis un petit peu par défaut, il livre des pizzas, il bosse dans une petite boutique de livraison de pizza. Et puis on le voit lors d'une livraison être victime d'un phénomène. En tout cas, lui, on montre bien qu'il le vit comme une sorte de malédiction. Il a une espèce de sensation étrange et puis ça le ramène genre 2 minutes en arrière et il sait que quand ça fait ça, c'est qu'il y a un accident qui vient de se produire sous ses yeux. Et donc là, en l'occurrence, c'est un accident de la circulation qui en fait va avoir lieu et donc il parvient à l'éviter. Donc il sauve en fait un enfant d'un accident de circulation qui aurait été complètement mortel hein, pour l'enfant. Et bon, bah donc lui forcément voilà, il va finir un peu à l'hôpital parce que bon, il est un peu blessé quoi, bon, rien de très très grave. Et donc voilà, ça lance l'histoire et en fait il va se produire quelque chose d'assez tragique, mais surtout quelque chose de lié à des événements bien plus anciens qui font que cette fois-ci il va revenir en arrière, mais pas de 2 minutes hein, voilà. Et donc de la même façon, il va falloir qu'il fasse quelque chose pour empêcher le drame d'arriver, sauf que forcément c'est dans des proportions bien plus grande cette fois-ci.
Toi, tu l'avais vu en 2016 ou
J'avais vu assez rapidement. Ouais. Du coup, parlons des contextes de visionnage et de revisionnage. Donc effectivement, j'avais vu l'animé peu après sa sortie. Je l'avais beaucoup aimé. Et je me souviens que je t'en avais assez rapidement parlé parmi les suggestions de visionnage que je pouvais te faire avec notamment le podcast en vue.
C'est vrai.
Et du coup, nous l'avons tous les deux revu assez récemment parce qu'on s'est organisé. De mon côté, du coup, je l'ai revu tout en le faisant découvrir à ma moitié. Il était prévu en fait de regarder les quelques premiers épisodes et puis qu'après éventuellement on en fasse un petit bout ensemble si possible peu après. Oui. Et en fait ce qui s'est passé c'est que on a défoncé l'animé en un week-end en fait, et même techniquement un épisode le samedi soir. Ouais. Et tout le reste le dimanche. Donc en fait, en l'espace de 24 heures, on l'a torché parce que ça lui a beaucoup plu. Et bah moi le revisionnage aussi m'a beaucoup plu, c'était vraiment super.
Effectivement, j'ai eu du mal à me mettre à la série, pas à partir du moment où j'allais commencer, mais parce que je savais que les thèmes étaient plutôt sombres et que c'est vrai que je regarde plutôt les animés pour m'évader.
Sombre ?
Tu...
Quoi, enlèvement et maltraitance d'enfants ?
Ouais, je crois.
Ouais, que c'est trop cool ça, non ?
C'est le début ça. Mais... et donc c'est vrai que c'était, j'ai eu un peu du mal à me lancer, mais c'est vrai qu'une fois lancé, ça n'a pas été trop compliqué de découvrir cette série. J'en avais déjà pas mal entendu parler, voilà, je l'ai vu, comme toi il y a pas très longtemps sur Wakanim. Avec la formule gratuite pour le coup.
Ouais.
Non, c'est de la, c'est pour le coup, c'est une bonne série que j'ai appréciée et j'ai hâte qu'on en parle.
Ouais. Et du coup, pour petite note, vu qu'on a parlé de Netflix, de Wakanim, petite note sur le physique, c'est une série que un peu comme Dragon Maid que j'ai attendu des années. Sauf que Dragon Maid, ça y est, on a enfin eu la saison 1 en Blu-ray et en bon Blu-ray de la part de Kazé. J'attends toujours Erased.
Ouais, il reste, et c'est que.
Je crois que je vais pouvoir l'attendre encore un moment. Hein.
C'est que en démat ou alors à l'étranger.
Mmh. Ah ouais, c'est qu'en apport. Il y a Guerre que Madoka pour l'instant qui a eu le privilège d'arriver en version italienne dans mes étagères.
Oui.
Et dont j'ai fait un remixing du coup. J'ai refait une VOSTFR à partir du Blu-ray italien en fait.
Mais tu as beaucoup de temps devant toi.
Alors non, mais j'ai quelques connaissances de vidéo par contre. du coup, en parlant de vidéo, excellente transition qui n'était pas prévue. Pour ce qui est de l'aspect visuel de l'animé, c'est quand même plutôt joli, c'est typique en termes de style du studio A1 Pictures. Ils ont déjà fait leur preuve et avec du budget ils produisent de belles images, ça c'était incontestable. Comme on en parlait tout à l'heure, ils ont quand même fait SAO hein, oui. C'est pas dégueulasse visuellement. Je te laisse parler de l'animation plus
oui.
spécifiquement.
Ouais, l'animation, comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment une animation très correcte pour un rendu qui se veut réaliste, et c'est ce qu'on attend d'un seinen, donc d'un récit qui est plus orienté vers jeunes adultes voire adultes. D'ailleurs, c'est un aspect qui me fait beaucoup penser à la série Monster, mm-hmm. qui a pas la même thématique, mais en tout cas qui a un ton qui ressemble beaucoup. J'ai vachement apprécié surtout le design très rond des personnages lorsqu'ils sont enfants, où il y a trop de séries où des personnages qui sont censés être en primaire, t'as l'impression qu'ils ont 16 ou 17 ans. ou avec des formes, et tout, etc. Non, là, c'est vraiment des gosses et c'est prévu comme, comme tout. Il y a aussi quelques, une utilisation assez parcimonieuse de la 3D, notamment dans les décors, avec des, certains effets de caméra très intéressants. Je me souviens notamment d'une scène où on voit une voiture s'éloigner au loin et quelqu'un qui court derrière, et je crois que c'était plutôt bien fichu. C'est jamais ostentatoire, mais le maître mot, c'est la sobriété, mais c'est globalement le maître mot pour tout l'animé de manière générale.
Ouais.
Tiens, vu qu'on parle de sobriété, j'ai aussi beaucoup aimé le générique du début. C'est un morceau de Asian Kung Fu Generation auquel on doit notamment des openings.
Asian quoi?
Asian Kung Fu Generation.
C'est bizarre là, t'as pas du mal à dire le nom.
Oui, non, mais c'est en anglais, c'est pour ça. Donc, très connu pour des openings de Naruto, de Full Metal Alchemist,
voilà,
et l'excellent Tatami Galaxy. Je me demande pourquoi je l'ai placé à cet endroit-là.
Tiens donc, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a Tatami dans le nom et t'aimes bien le sport.
Oui, USA. Donc, c'est un morceau qui est vraiment aérien et aussi assez mélancolique, qui correspond bien au ton de la série. Justement entre le plaisir du retour en enfance et le côté assez mélancolique de façon générale, ça correspond bien au morceau peut-être punchy mais très épuré de Asian Kung Fu Generation. Jean, je crois que tu vas nous parler de l'OST dans sa globalité.
Ouais, je te laisse parler, je t'ai laissé parler de l'opening, je m'occupe de l'OST. On a une belle bande originale avec des sonorités qui m'étaient familières. Et du coup, je me suis dit, mais ça, je connais, et je connais la personne qui en est à l'origine. Et effectivement, pour cause, on retrouve Yuki Kajiura à la composition, dont on vous a déjà parlé à l'antenne, parce que cette dame, elle a composé pour d'autres séries qu'on a regardées, et dont pour certaines, on a déjà parlé. Et alors, bon, je sais qu'il y en a certaines dans la liste que tu n'auras peut-être pas vues, genre par exemple Pandora Hearts, je pense que tu ne les as pas vues, moi j'avais regardé. Mais il y a aussi du Sword Art Online, ou encore du Puella Magi Madoka Magica.
Un nom
qu'on a cité il y a une petite quelques minutes. Enfin bon, elle a du coup fait des compositions pour des animés dont certains sont assez connus, des OST qui à chaque fois m'ont beaucoup parlé, m'ont beaucoup touché. Donc, sans surprise, on trouve là-dedans quelques pistes qui m'ont vraiment vraiment beaucoup plu. Ma piste du cœur étant She Was Here Alone. Mais citons aussi Cold Place Know You're In et The End Is Near At Hand, même si, comme tu l'as dit, c'était pas l'éclat total forcément dans l'OST. C'est quand même essentiellement du triste, hein. Oui. En termes d'instruments, je suis moins calé que mon compère Xavier, mais je pourrais mentionner tout de même qu'il y a du piano, du violoncelle, avec des sonorités donc typiques de la compositrice en question, à tel point que des fois on se dit tiens, coucou Sword Art Online, quand on entend un morceau de piste.
Oui, il y a 2-3 pistes qui font vraiment beaucoup penser à Sword Line, moins à Puella.
Ouais, un peu moins. Même si moi j'arrive quand même à trouver encore des sonorités sur certains passages qui me le rappellent. Et il semble aussi y avoir un glockenspiel ou un instrument très proche en tout cas.
Oui, pour notamment le thème du tout début, je crois que c'est quoi ? C'est I'm waiting for you, I'm waiting here, le tout premier thème. Je crois que c'est un glockenspiel. Ouais.
Et du coup, tant qu'à faire, vu qu'on parle de musique, je vais parler de voix. Du coup, on a de bonnes performances de la part des comédiennes et des comédiens. C'est uniquement de la version originale parce qu'il n'y a pas de version française, en tout cas pas à ce jour.
Oui, je pense pas d'ailleurs que vu l'âge de la série, je pense pas qu'il y en a.
Ouais, parce que ça a été sur Netflix du temps où c'était récemment sorti. Et si ça avait été comme les séries pour lesquelles ils en ont l'intention, il y aurait eu une VF directement, en fait, voilà. Quasiment. Donc,
si il n'y en a pas eu, c'est qu'il y en aura.
Ouais, il y en aura jamais. Probablement pas. Ouais.
Tiens, vu que tu parles un peu des voix, je trouve que le seul bémol que je mettrais sur l'interprétation, mais là, ce n'est pas de la faute des acteurs, c'est un problème de direction, c'est que des fois, il y avait de la confusion sur les voix intérieures de Satoru. Sans spoiler, on voit Satoru en enfant, Satoru en adulte, et des fois les voix intérieures se mélangent un peu, c'est un peu particulier.
Ouais, c'est vrai. C'est un truc qu'on peut voir dans Détective Conan.
Ah oui, aussi.
Mais c'est peut-être plus maîtrisé dans Détective Conan.
Je pense que le truc, c'est que Détective Conan, alors bon, sans spoiler toute la série, mais globalement, il est quasiment tout le temps en enfant.
Oui, c'est.
Donc c'est quand il fait les déductions, il sera forcément, on prend la voix d'adulte. Alors que là, bon, il y a un peu plus de mouvement, donc c'est un peu compliqué. Ouais.
Du coup, attaquons la narration.
Je t'en prie.
La narration qui n'est pas tout à fait linéaire, c'est un bon point sur l'échelle du tarot. même si le récit se déroule quand même de façon assez naturelle dans l'ensemble, dans le sens de lecture, entre guillemets. Ouais, je vais te laisser en parler. Ça.
Ouais, bah oui,
allez,
alors
prends des pincettes.
Bon, sans déflorer, bon, y a beaucoup de mécaniques de voyage dans le temps. Et c'est plutôt casse-gueule, mais ici, la mécanique, elle est suffisamment éludée pour pas perturber la cohérence du récit. Et on n'est pas tout le temps à se demander, attends, mais si c'est passé ça, alors qu'avant. Non, on est toujours pris dans le récit. Et on n'essaye pas de t'expliquer les mécanismes de.
À base de banane, 1 minute 30 au micro-ondes,
oui,
et
voilà,
ça fait des chocs à pic. Quoi.
Ou de 88 miles à l'heure, ou je sais pas quoi. Voilà, donc c'est plutôt. Non, c'est, on se dit que voilà, c'est plutôt bien fichu à ce niveau-là. On suit de toute façon, on suit uniquement le point de vue d'un personnage, c'est celui de Satoru. Et contrairement à d'autres séries d'ailleurs qui jouent la confusion, dans l'esprit, dans son esprit, le héros a toujours 29 ans, quelle que soit l'époque de sa vie où il se trouve.
Ouais.
Voilà. Donc il n'y a pas de, moment un peu gênant justement. Donc c'est plutôt intéressant là-dessus.
Ouais. Moi j'ajouterais qu'il y a alors bon c'est ça pourrait être vu comme des facilités alors je dirais pas des facilités scénaristiques mais c'est un petit peu l'idée je trouve qu'il y a d'habiles pirouettes à deux trois moments dans la série pour mener le récit où on veut en esquivant du coup habilement les problématiques justement qu'il aurait pu avoir sur l'aspect justification l'aspect technique mais du coup c'est vraiment au niveau des déplacements temporels hein. Sinon rien à reprocher en termes de facilité sur le reste du récit.
Non, je suis d'accord avec toi pour compléter c'est une série qui est vraiment excellemment rythmée parce que en 12 épisodes on n'y a pas un moment où on se dit tiens là c'est trop long ou là c'est rushé. C'est vraiment bien fichu là-dessus, notamment grâce aux éléments scénaristiques dont tu parlais juste avant.
Ouais, la construction vraiment en maîtrisée.
Passons aux thématiques. J'ai que les trucs sympas. Passons aux thématiques.
C'est bizarre, tu as essayé d'esquiver le pas sympa alors que tous les sujets de l'animé en fait sont plutôt sérieux.
Alors, de quoi ça parle, Erase? Quels sont les superbes thématiques?
Ça parle de gâteaux d'anniversaire,
oui,
de patinoire.
Ça parle de gants.
Oui,
ça parle de gants.
De balade en voiture, de bonbons.
Oui. De balade dans la neige, non,
ouais,
sympa.
De,
voilà.
De maman et sa fille qui font un câlin.
Voilà, un gros sujet sur la maltraitance infantile et surtout de l'inaction, voire de l'action néfaste des adultes pour soit ne pas le voir, soit ne pas l'empêcher. C'est un animé qui reste quand même assez pudique hein, dans sa manière de montrer les moments durs. Comme je le disais au début, c'est vraiment la sobriété, c'est le maître mot. On va pas te mettre des instants choc. On va te laisser tout suggérer et c'est presque plus violent parce que tu t'imagines le pire entre guillemets.
Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Hein. C'est en même temps, c'est une règle héritée du cinéma, quoi. À la base, c'est plutôt une question de moyens, de ne pas montrer le mal pour le suggérer et laisser les spectateurs nourrir leur propre peur. Là, effectivement, il y a un petit peu le même effet où quand tu vois le résultat après coup, tu te dis putain, qu'est-ce qui a dû se passer, c'est
ouais.
Terrible. Et comme il y a cet aspect visuellement réaliste dont tu parlais, c'est encore plus, ça aurait été un Pikachu qui serait revenu avec une bosse sur la joue, tu dirais bon ok,
ouais.
Un chenipan qui l'a frappé très fort, mais ouais. Là le problème c'est que c'est une petite gamine qui ressemble un peu à la petite gamine que tu pourrais croiser dans la rue en marchant quoi.
Ouais.
Donc effectivement ça laisse ton imagination travailler.
C'est ça.
Donc pour continuer sur les thématiques, ouais, moi j'ajouterais qu'il y a pas mal de trucs autour de tout ce qui est forcément l'âge de l'enfant, donc l'intégration scolaire, l'isolement de certaines personnes. À l'inverse, l'implication que tu peux avoir auprès des autres, voire une certaine maturité émotionnelle, des sujets très intéressants là-dessus autour de certains personnages. Bien sûr, y a aussi enlèvement, meurtre, pas seulement maltraitance, hein, parce que pourquoi s'arrêter à la maltraitance ? On m'a fait remarquer, du coup, et c'est vrai, le traitement est assez psychologique sur pas mal de personnages, sur pas mal d'aspects, je me répète un peu, je suis désolé, et globalement, c'est quand même plutôt nuancé, évitant de tomber dans le piège du manichéisme.
Ouais,
et
assez...
c'est plutôt pas mal, quand même.
Ouais, je suis assez d'accord. En fait, pour chaque personnage, il va y avoir une explication à leur comportement, même s'il est même si pour certains ça sera moralement répréhensible, hein, mais surtout l'anime laisse le spectateur juger si c'est justifié ou pas de la part du personnage. Et en fait, ça montre la gravité des actes, mais ça montre aussi que les humains sont faillibles. Mais pas forcément qu'ils ont tous de bonnes intentions, loin de là.
Mmh,
mais
ouais.
C'est rare d'avoir autant de profondeur dans la description de personnages dans un animé qui, une fois de plus, ne fait que 12 épisodes.
Ouais, ouais.
Y a un autre thème, celui-là plus positif, qui est le thème de la confiance. Parce que voilà, Satoru, le héros, se donne comme mission de sauver une camarade, et pour cela, il va vite se rendre compte qu'il va devoir gagner à la confiance des gens autour de lui.
Ouais, parce qu'il pourra pas y arriver tout seul.
C'est ça. Aussi, ça c'est un truc classique des animés japonais aussi. C'est tous ensemble.
Oui, oui, l'union fait la force.
Voilà.
Ça paraît assez pas tout à fait faux quand même.
Je dis pas que c'est faux, je dis que bon, voilà. Voilà, il aura aussi bien besoin de la confiance de ses camarades, mais aussi de la confiance des gens qu'il veut protéger, parce que on a du mal à protéger des gens en dépit d'eux-mêmes.
Oui, oui, oui.
C'est ça.
Eh, viens avec moi, c'est pour ton bien.
Oui, non. Voilà. J'ai un camion et des bonbons. Non, ça marche pas. Voilà. Donc, voilà. En plus, c'est pas évident parce qu'on rappelle qu'à un moment, c'est quand même un enfant qui est censé être en primaire, mais avec le comportement d'un adulte
de 30 ans. Quoi.
Ce qui est largement suspect auprès
ouais.
de tout le monde.
Ouais.
Donc, voilà. Et c'est bien en fait parce que du coup donner sa confiance au bout d'un moment c'est vu comme un acte de foi nécessaire pour avancer c'est quelque chose que dit quasiment mot pour mot
le personnage de Airi.
Exactement.
Ouais. Le personnage, c'est une excellente transition. Vraiment, on est les maîtres de la transition.
Si tu veux, je te laisse y aller sur Airi.
Ouais,
ou
ça marche. J'y vais sur Airi. Airi, qui au final est assez peu présente de par l'époque où prend place le personnage, mais quand même une certaine importance. Et moi, je l'ai trouvée très touchante. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage. En termes de ratio présence, attachement à ce personnage, c'est plutôt pas mal. Et du coup, pour parler d'une autre époque, le personnage de Kenya. Un petit bémol quand même sur ce personnage, je sais qu'on a des avis qui convergent sur ce dernier parce que c'est un personnage qui est intelligent et ça pose pas de problème, mais qu'il est clairement beaucoup trop pour son âge, c'est déjà voilà, ça coince un petit peu. Et on peut envisager un gap de, sans parler d'intelligence mais de maturité, ouais. Entre des personnes, mais pas à ce point là, pas aussi important.
C'est, ouais, il a une intelligence émotionnelle qui est,
ouais,
qui est même trop grande même pour un adulte,
et il s'exprime beaucoup trop comme un adulte, et vraiment ça paraît pas naturel. Et en fait, du coup, il donne un peu l'impression d'avoir été créé, ou du moins altéré après coup, pour faire avancer certaines péripéties.
Et un peu de ça, oui. À côté, Satoru, qui est censé être aussi un des camarades de Kenya, mais le héros, en fait, il est plutôt classique. En fait, sa principale qualité, c'est d'être bien intentionné et d'être persuadé d'être le seul à pouvoir agir dans la situation assez étonnante dans laquelle il est. Il a un peu le syndrome du sauveur, du coup. C'est pour ça que je disais auparavant, voilà, tu peux pas tout faire tout seul, etc. J'ai beaucoup aimé personnellement toute sa relation avec Kayo, en fait, qui est extrêmement bienveillante et ne part jamais dans des endroits où j'ai eu peur que ça aille. Même si on n'est jamais trop loin du trope de la demoiselle en détresse. Voilà. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé aussi un autre personnage qui est la mère de Satoru, la mère du héros, parce que c'est un personnage adulte qui est capable de donner de la confiance à son enfant, de le soutenir et de le protéger tout en étant très perspicace et jamais dupe de ce qui se passe. C'est indéniablement la force tranquille du récit. Je trouve que justement, contrairement à Kenya qui a un peu une facilité scénaristique...
Ouais, la mère pas du tout.
Ouais, la mère c'est... La mère aurait pu l'être, mais ne l'est pas du tout, justement parce qu'elle arrive entre guillemets à se tenir à distance, tout en ayant son action de son côté.
Ouais. Ok. Du coup, vu qu'on a parlé des personnages et qu'on n'a pas de VF à aborder, quelle serait ta conclusion ou ton avis global sur la série ?
Je trouve que c'est une très bonne série psychologique. Très honnêtement, la partie un peu fantastique, et elle est très secondaire. C'est une série qui est très centrée sur ses personnages, un peu orientée enquête, notamment sur la fin, Mais après, voilà, comme souvent dans les séries que j'aime bien, c'est la construction des relations entre les personnages qui est vraiment très sympathique. Après, voilà, le seul bémol que je donnerais, c'est que je suis un petit peu moins intéressé sur la partie contemporaine que sur la partie qui se passe dans les années 80. Voilà.
Ok. Ben moi, du coup, pour Erased, pareil, il y a un certain attachement au personnage quand même. Il y a aussi la pertinence, enfin l'impact que le message a eu sur moi. L'épisode 8 où je me mets à chialer, quoi. et ouais, j'aime bien cet aspect enquête qui fait que, comme toi, j'ai une préférence pour la partie plutôt enfance. Même s'il y a quand même des très bons moments dans la partie contemporaine, notamment avec le personnage de Airi qui m'a beaucoup plu.
Oui, mais de toute façon, de manière générale, très bonne série. C'est rare d'avoir des seinen de cette qualité-là, ouais. Et surtout qu'ils en fassent pas des tonnes, juste pour dire, bah, on fait une série pour des adultes, du coup on rajoute des trucs ultra gore ou des trucs abusés juste pour maintenir l'audience. Non, là c'est juste un vrai propos et en plus en sobriété. Ça fait très plaisir.
Voilà, donc recommandation de visionnage, regardez la série. Et maintenant, Xavier lance la conclusion.
Et voilà, c'était la fin de ce dernier podcast. Non, c'est pas le dernier, on en fera d'autres.
Dernier, non mais va pas dire des trucs pareils.
Oh, ça va.
Oh là 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 là. Dernier en date à ce jour.
Donc c'est la fin de ce podcast sur Erased et je ne dirai pas le nom japonais parce que je ne céderai pas à la pression de gens qui veulent le dire tout de suite, maintenant.
Je veux le dire tout seul, tout de suite, maintenant. Boku Dakegan Inaimachi.
Ouais,
c'est
voilà.
Bon.
Bref, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur... le podcast Le Samouraï à Soubrette. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Google, sur
Podcast Addict
et peut-être même sur Amazon, qui sait. Et on vous dit à bientôt.
Salut.